Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 13 février 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. L'avancée des rebelles du M23 en RDC, soutenue par le Rwanda, dans le Sud Kivu, menace de provoquer une catastrophe humanitaire dans la région. En Éthiopie, le front de libération du peuple du Tigré est suspendu pendant 3 mois. Le président américain Donald Trump annonce qu'il imposerait des tarifs réciproques à ses partenaires commerciaux ce jeudi. Le Hamas se dit prêt à appliquer l'accord de trêve avec Israël dans la bande de Gaza et libérer les otages selon le calendrier prévu. Et dans notre partie magazine, les législateurs américains se penchent sur le gel de l'aide étrangère des États-Unis par l'administration Trump.
L'USAID a été la cible d'une campagne concertée de désinformation menée par Elon Musk et amplifiée par le président des États-Unis. Ils ont déployé un feu roulant de fausseté pour calomnier une agence dont la mission est fondamentale pour faire avancer les intérêts de l'Amérique dans le monde.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'avancée des rebelles du M23 en RDC, soutenue par le Rwanda dans le Sud Kivu, menace de provoquer une catastrophe humanitaire dans cette région déjà affectée par les déplacements massifs, a déclaré le gouverneur de la province. Le Parlement européen a demandé à l'Union européenne de suspendre son partenariat sur les matières premières avec le Rwanda. Plus d'infos avec Nani Talani.
Le gouverneur de la province, Jean-Jacques Purusi Sadiki, affirme qu'il y a un afflux de personnes fuyant Goma vers le sud de Kivu, créant d'énormes besoins humanitaires auxquels il essaie de faire face. La région manque cruellement de ressources. Notre crainte est que si le M23 avance de ce côté, cela contribuera à une catastrophe humanitaire naturelle, a-t-il ajouté à Bukavu. Le trafic a été suspendu entre le sud et le nord Kivu, entraînant des pénuries de marchandises. Pour sa part, dans une résolution ce jeudi, le Parlement européen prie instamment la Commission et le Conseil de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence en RDC et qu'il a cessé d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le M23. Pour la Commission sur les droits humains, ce partenariat ne peut être maintenu alors que le sang coule dans l'est du Congo et que des minerais sont illégalement acheminés au Rwanda. Le Parlement exige également le retrait des troupes rwandaises de la RDC, le gel de l'aide budgétaire et de l'assistance militaire, ainsi que l'annulation des championnats du monde de cyclisme prévus à Kigali.
L'opposant ougandais Kizza Besigye, qui a commencé lundi une grève de la faim après des mois de détention dans son pays consécutif à son enlèvement au Kenya et dans un état de santé critique, a déclaré jeudi l'un de ses avocats. Mercredi, Erias Lukwago avait déclaré que son client avait cessé lundi de s'alimenter parce qu'il estime n'avoir plus d'autre option qu'une grève de la faim pour dénoncer sa détention illégale. Enlevé en novembre dernier lors d'un déplacement au Kenya, Kizza Besigye encourt la peine capitale pour trahison devant une cour martiale, une procédure qualifiée de simulacre par son épouse Winnie Byanyima. Un tribunal kényan a condamné jeudi à 12 ans de prison un ancien gouverneur de comté aux côtés de sa femme et de 3 autres personnes. Pour faits de corruption, faits rares dans ce pays d'Afrique de l'Est où le phénomène est endémique. Ferdinand Waititu, ancien gouverneur du comté de Kiambu, très peuplé et situé aux portes de la capitale Nairobi, est l'une des plus importantes figures publiques condamnées depuis les promesses du gouvernement de s'attaquer à la corruption. Monsieur Waititu a été jugé coupable de l'attribution illégale en février 2018 de contrats pour la construction de routes dont le coût total s'est levé à 588 millions de shillings kényans, environ 4,4 millions d'euros selon la presse locale. Le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, parti qui a dominé durant près de 30 ans la vie politique en Éthiopie, a été suspendu pendant 3 mois pour ne pas avoir organisé d'assemblée générale, a annoncé ce jeudi la Commission électorale nationale éthiopienne. Le point avec Eric Manelakis.
La Commission nationale électorale a interdit au TPLF de mener tout type d'activité politique pendant une période de 3 mois, selon un communiqué de la NEBE publié sur X, l'accusant d'avoir commis une violation manifeste en ne respectant pas ses dispositions. L'enregistrement du parti sera annulé si les instances dirigeantes du TPLF ne prennent pas de mesures correctives dans la période des 3 mois pour suivre le texte. Le TPLF avait perdu son statut de parti politique fin 2020, dès le début de la guerre entre les rebelles tigréens et les forces gouvernementales qui a fait rage jusqu'en novembre 2022. Il a été plusieurs années considéré par Addis Abeba comme une entité terroriste. Le parti avait finalement été de nouveau autorisé en août 2024 par la commission électorale si une assemblée générale était organisée et de nouveaux dirigeants élus avant le 10 février 2025. Depuis plusieurs mois, des tensions sont apparues au sein du TPLF entre deux factions menées d'un côté par Getachew Reda, un haut cadre du parti installé à la tête d'une administration intérimaire de la région par Addis Abeba, et de l'autre par Debretsion Gebremichael, le chef du TPLF. Le parti tout puissant de 1991 à 2018 a été marginalisé dès l'arrivée au pouvoir à cette date de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed sur fond de manifestations d'ampleur dans le pays.
Le président du Liberia, Joseph Boakai, a suspendu plus de 450 fonctionnaires qui n'ont pas déclaré leur patrimoine à temps. La ministre déléguée au budget, ainsi que des ambassadeurs épinglés par l'agence anticorruption du Liberia, figurent parmi les sanctionnés. La loi libérienne oblige tous les fonctionnaires nommés par le gouvernement à déclarer leur patrimoine à leur prise de fonction, puis au moment de quitter leur poste.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump annonce qu'il imposerait des tarifs réciproques à ses partenaires commerciaux ce jeudi, ouvrant de nouveaux fronts dans sa guerre commerciale. Le plan tarifaire de Trump pourrait viser tous les pays qui imposent des droits de douane sur les importations américaines. Alexandrine Rolognon.
Aujourd'hui, c'est le grand jour. Des tarifs douaniers réciproques rendra l'Amérique sa grandeur, a publié Trump sur sa plateforme Truth Social. Cette mesure aurait pour effet d'aligner les droits de douane appliqués par les États-Unis aux importations sur ceux que d'autres pays imposent aux produits américains. La dernière série de droits de douane imposés par le président républicain a ravivé les craintes d'une guerre commerciale mondiale de plus en plus étendue et a menacé d'accélérer l'inflation aux États-Unis. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump a annoncé un large éventail de droits de douane visant certains des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, estimant que cela contribuerait à équilibrer les échanges commerciaux. Le président américain a déclaré qu'il utilise les droits de douane comme un outil à part entière pour rendre l'Amérique à nouveau riche, selon ses propres termes.
Le Hamas s'est dit prêt jeudi à appliquer l'accord de trêve avec Israël dans la bande de Gaza et libérer des otages selon le calendrier prévu, laissant présager un nouvel échange d'otages contre des prisonniers palestiniens samedi, après plusieurs jours d'incertitude. Les précisions de John Lindon.
La télévision Extra News, proche de l'État égyptien, a affirmé que la médiation menée par l'Égypte et le Qatar avait permis de surmonter les obstacles qui mettaient en danger le cessez-le-feu et que les deux camps étaient désormais engagés à mettre en œuvre pleinement l'accord. La trêve a été mise à rude épreuve ces derniers jours et mardi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait averti que les combats pourraient reprendre si les otages retenus à Gaza n'étaient pas libérés samedi. Sa menace faisait écho à celle du président américain Donald Trump, qui avait déclaré que l'enfer se déchaînerait si le Hamas ne libérait pas tous les otages israéliens d'ici samedi. Le Hamas avait menacé de bloquer ses libérations en accusant Israël de plusieurs violations de l'accord, notamment d'entraver l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire en ruine.
Les pays arabes, la Turquie et les Occidentaux se sont réunis jeudi à Paris avec le chef de la diplomatie syrienne pour aider la Syrie à se reconstruire et protéger la fragile transition un peu plus de 2 mois après la chute de Bachar al-Assad. Les 27 ont conclu fin janvier un accord de principe pour la levée progressive des sanctions que demande désespérément le nouveau pouvoir syrien dirigé par l'ancien chef rebelle islamiste Ahmad al-Sharr. L'ONU a estimé à plus de 400 milliards de dollars la reconstruction du pays ravagé par 14 ans de guerre qui a fait plus de 500 000 morts et plus de 2 millions de réfugiés et déplacés syriens. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Dili Diko.
En Côte d'Ivoire, le cacao abonde à nouveau dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. Les arrivées de cacao ont atteint 1,32 million de tonnes entre octobre 2024 et début février 2025, selon les données des exportateurs. C'est une hausse de 21% par rapport à la même période l'année dernière. Pour rappel, la Côte d'Ivoire fournit 40% de l'offre mondiale de cacao. Au Kenya, des milliers d'ouvriers du textile attendent de connaître leur sort. L'exportateur de vêtements United Ariane, installé à la périphérie de Nairobi, existe grâce à l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, qui donne accès à certains produits africains au marché américain sans droit de douane. L'AGOA expirera en septembre, à moins que les autorités américaines n'acceptent de le prolonger. 150 000 personnes dépendent de l'entreprise kényane United Ariane, qui produit jusqu'à 8 millions de jeans, dont Levi's et Wrangler, exportés vers les États-Unis chaque année. Le Malawi a annoncé geler les exportations de pierres et minéraux précieux et cesser de délivrer de nouvelles licences d'exportation le temps de réformer le secteur. Le pays possède d'importants gisements de minéraux, notamment d'uranium, de rubis et de saphir, mais n'arrive pas à en tirer profit.
Place maintenant sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
Coupe du Roi en Espagne, choc FC Barcelone, Atlético Madrid en demi-finale, le Real face à la Real Sociedad.
Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid s'affronteront en demi-finale de la Coupe du Roi fin février. Tandis que le Real Madrid sera opposé à la Real Sociedad selon le tirage effectué ce mercredi. Le Barça, club le plus titré de la compétition avec 31 trophées, recevra l'Atlético au match aller au stade olympique de Montjuïc et ira au Metropolitano au retour. Le Real Madrid, champion d'Espagne et d'Europe en titre, a eu plus de chance au tirage puisqu'il se déplacera d'abord à Anoeta, un stade qui ne réussit pas au Grand Espagne pour affronter la Real Sociedad et jouera le match retour au Santiago Bernabéu. C'est la première fois que les trois géants espagnols sont dans le dernier carré depuis 2014. Les dates de ces rencontres n'ont pas encore été officialisées. La finale prévue le 26 avril se déroulera au stade olympique de la Cartuja à Séville en Andalousie.
Toujours en Espagne, la pépite Pau Cubarsí sous contrat avec le Barça jusqu'en 2029.
Oui, le jeune défenseur central du FC Barcelone, Pau Cubarsí, a signé un nouveau contrat jusqu'en 2029, a annoncé ce jeudi le club catalan. Grand espoir du football espagnol, Cubarsí, 18 ans, a fait ses débuts professionnels en janvier 2024 sous les ordres de Xavi, peu avant son 17e anniversaire et a depuis disputé 60 matchs, toutes compétitions confondues, avec le club. Il compte 5 sélections avec la Roja et a remporté avec son pays le tournoi olympique des JO 2024 à Paris.
NBA, les Spurs de Wembanyama corrigés par les Celtics de Tatum.
Avant de se rendre au All-Star Game ce week-end, les Spurs de Victor Wembanyama ont perdu contre les champions en titre des Boston Celtics, portés par Jason Tatum. Pour son 85e match consécutif avec au moins un contre, Wembanyama détient désormais la 5e plus longue série de l'histoire de la NBA dans ce domaine, la meilleure en près de 30 ans. Boston est resté deuxième à l'Est derrière Cleveland, qui a battu Toronto 131-108. Les Spurs sont deuxième à l'Ouest. Les Lakers de Los Angeles ont perdu 131-119 contre le Jazz de Utah, mettant fin à leur série de 6 victoires consécutives. Et les Mavericks ont compté sur Kerry Irving, 42 points, pour s'imposer contre Golden State 111-107.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat? Trois candidats sont en lice pour devenir président de la Commission de l'Union africaine. L'homme politique kényan, Raila Odinga, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf et l'ancien ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randria Mondrato. L'organisation continentale organise ses élections sur fond de conflits régionaux, notamment dans l'est de la RDC. Cette crise pourrait-elle influencer le scrutin? Pour une analyse, Alexandrine Holognon, adjoint à Libreville, Dani Aïda, directeur résident senior RDC et Afrique centrale du National Democratic Institute.
Je pense qu'on a le choix entre trois candidats qui présentent chacun des avantages intéressants. Le candidat Raila Odinga du Kenya, mis à part son âge, on peut dire que c'est un homme d'expérience qui, par rapport aux différentes crises sur le continent, pourrait jouer un rôle important. Le candidat de Madagascar est reconnu comme un diplomate de qualité. C'est peut-être pour avoir été quand même limogé après avoir pris position dans la crise russo-ukrainienne, cela peut être à son désavantage. Quant au candidat Youssouf de Djibouti, je crois que c'est un diplomate aussi depuis plus de 20 ans en poste qui a démontré pas mal de capacités et aussi une capacité d'équilibre qui est importante dans la question de crise africaine. Maintenant, on va voir dans quel sens ira le soutien des différents États. Et ça peut se jouer sur un rien, mais bon, espérons que le jeu soit ouvert et que les compétences des uns des autres priment dans le choix des dirigeants africains.
L'Union africaine organise ses élections à un moment où le continent fait face à plusieurs conflits, notamment dans l'est de la RDC. Et on a vu des pays qui se rangent du côté de la RDC et qui accusent le Rwanda actuellement de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Est-ce que vous pensez que cette crise en RDC pourrait influencer le choix du président de la Commission de l'Union africaine?
Je le pense sérieusement. Je crois que cette crise va jouer un grand rôle parce que l'Union africaine a eu à se prononcer, pas toujours de la manière dont on pouvait s'attendre. Et puis, que des pays comme le Kenya jouent un rôle important dans cette crise à travers la communauté d'Afrique de l'Est et que ce pays présente un candidat pour l'exécutif de l'Union africaine, je pense que tous ces facteurs vont jouer certainement.
Sous Moussa Faki Mahamat, la question de la réforme de l'Union africaine était en discussion. Selon vous, quelle réforme aujourd'hui pourrait être nécessaire pour rendre l'UA plus efficace?
L'Union africaine reste encore une grosse organisation qui, par sa structuration, ne démontre pas de réelles capacités. Sur les questions politiques de maintien de la paix, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors, en termes de réforme de l'Union africaine, déjà, je crois qu'il y a lieu de circonscrire la responsabilité des conférences des chefs d'État. Il faut bien que ça soit revu. Il faut que le Parlement de la CEDEA aussi soit redéfini, soit repositionné par rapport au rôle qu'il peut jouer dans l'accompagnement de certains processus sur le continent et aussi dans les questions de règlement des crises pour aussi construire cela. Et le choix aussi des membres de ce Parlement. Le président sortant a souvent parlé de réformes, mais la réalité est qu'on ne peut pas embrasser toutes les réformes à la fois. Et il faudrait bien que cette Union africaine redevienne plus redevable aux différents pays, redevable aussi aux peuples africains. Mais sur ce plan-là, je pense qu'il y a une évaluation à faire de façon indépendante avant d'envisager qu'on pilote de façon suivie des réformes qui profitent véritablement au continent sur différents plans.
Dani Aïda, directeur résident senior RDC et Afrique centrale du National Democratic Institute.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À l'initiative de l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio est célébrée chaque 13 février en référence à la création de la radio des Nations Unies le 13 février 1946. Pour cette 14e édition, le thème retenu est radio et changement climatique. Quel rôle joue aujourd'hui la radio en Afrique pour préserver son indépendance dans un contexte de plus en plus complexe? Eric Manilakiza, adjoint à Bruxelles, Innocent Moisy, directeur général de la radio-télévision Renaissance.
Oui, la radio demeure selon le pays. Selon le pays, le niveau de connexion à Internet demeure le principal média en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de populations qui ne sont pas instruites, qui n'ont pas accès à des journaux écrits, qui n'ont pas accès à la télévision. Et donc là où il y a moins de gens qui ont accès à l'Internet, encore plus, donc la radio reste le moyen d'information par excellence pour des populations les plus démunies, les plus dispersées sur le continent, et d'autant plus qu'elle est gratuite. Si vous avez un poste de radio, vous pouvez écouter tout ce que vous voulez, vous n'avez pas à payer, ce qui n'est pas le cas pour Internet, ce qui n'est pas le cas pour la télévision, etc. Donc la radio reste une source d'information centrale sur le continent.
Et comment la radio s'adapte-t-elle pour rester pertinente face justement à la montée en puissance des réseaux sociaux et des plateformes numériques?
Il y a de quoi s'inquiéter de ce côté-là, parce que, par exemple, sur la région qui est la région des Grands Lacs, où il y a un conflit majeur, on observe déjà dans certains pays que la radio ne peut pas travailler librement, que ce soit dans le cas de la RDC ou du Burundi. On observe également que les radios internationales sont d'une partialité assez déroutante, assez étonnante d'ailleurs. Ça, ce n'est pas fait pour faire gagner de la crédibilité à la radio de façon générale. Elle a le défaut d'être facilement contrôlée, contrôlable par des autorités connues ou des propriétaires connus, tandis que les réseaux sociaux peuvent échapper à peu près à ce type de contrôle, tout en étant aussi très difficile à cerner parce qu'il y a un peu de tout là-dedans, le pire comme le meilleur. Donc la radio reste importante, mais c'est assez inquiétant de voir comment ces derniers temps et devient le centre d'un enjeu presque vital avec des interventions assez brutales des autorités publiques dans les pays qui sont en conflit, notamment quand on menace de mort toute couverture qui ne ressemble pas à la couverture officielle, si la radio donc ne fait pas cet effort permanent de rester la source la plus fiable d'information, elle risque de créer une sorte de dispersion de l'auditoire, de l'opinion. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant, moi je le dis, en pensant aux crises dans les pays du Sahel, dans la région des Grands Lacs, où on voit les grandes radios internationales perdre presque totalement de leur visibilité en prenant parti pour ceux qui ont la capacité de couper leurs émetteurs. Et ça devient vraiment inquiétant.
Innocent Mourzi, directeur général de la radio-télévision Renaissance, joint à Bruxelles. Les législateurs démocrates ont déclaré mercredi que le gel de l'aide étrangère des États-Unis par l'administration Trump pourrait nuire de façon permanente à la sécurité et à la position des États-Unis à l'étranger. Les républicains rétorquent que l'examen des programmes de l'Agence américaine pour le développement international est nécessaire pour lutter contre le gaspillage et la fraude. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, fait le point. Récit Nani Talami.
L'incertitude règne dans le monde entier alors que le sort des programmes américains d'aide à l'étranger est en cours d'examen. Chris Coons est un sénateur démocrate.
Nous perdons des décennies d'expérience et de perspicacité, des relations profondes, des interventions efficaces dans certains des endroits les plus dangereux et les plus éloignés de la planète. Et nous trahissons des partenaires qui ont risqué leur place dans leur communauté et leur pays en s'alliant publiquement sur nous.
Lors d'une table ronde organisée mercredi, des experts ont expliqué aux législateurs que l'aide étrangère représentait moins d'1% du budget total des États-Unis et ont réfuté les allégations de gaspillage. Jeremy Konindik est le président de Refugees International et un ancien fonctionnaire de l'USAID.
L'USAID a été la cible d'une campagne concertée de désinformation menée par Elon Musk et amplifiée par le président des États-Unis. Ils ont déployé un feu roulant de fausseté pour calomnier une agence dont la mission est fondamentale pour faire avancer les intérêts de l'Amérique dans le monde.
Les républicains ont défendu le travail du département pour l'efficacité gouvernementale, DOGE, dirigé par le milliardaire Elon Musk, en affirmant que les tentatives pour mettre fin à la fraude et au gaspillage n'ont que trop duré. Lindsey Graham et sénateur républicain.
L'USAID est une agence qui nous a tous laissé tomber. J'ai toujours plaidé en faveur du soft power ici et ce que j'ai vu me rend malade.
L'administration Trump a accordé des dérogations permettant la reprise de certains programmes d'aide, bien que les sénateurs démocrates se soient demandé mercredi si cela se produisait sur le terrain. Dans le bureau ovale mardi, Elon Musk a déclaré que son travail suivait un processus clair.
Non, c'est en partenariat avec les chefs d'agence et j'ai vérifié régulièrement avec le président pour m'assurer que c'est ce que le président veut qu'on fasse.
L'aide au développement soutient plus de 100 000 emplois aux États-Unis. L'une des milliers d'employés de l'USAID, soudainement sans emploi, a déclaré que les conséquences d'un arrêt, même temporaire, de l'aide américaine seraient difficiles. Mieka est employée de l'USAID mise à pied.
Nous travaillons non pas en forçant les gens à respecter l'Amérique ou en leur disant d'avoir certaines valeurs, mais en les soutenant de la manière dont ils estiment avoir besoin.
Des contractuels américains et des organisations non gouvernementales poursuivent l'administration Trump pour le gel des fonds de l'USAID, estimant qu'il s'agit d'une utilisation inconstitutionnelle du pouvoir présidentiel. Les républicains affirment que Trump ne fait qu'exercer son autorité.
Après un échange de prisonniers réussi avec la Russie, le président Donald Trump a ouvert mercredi plusieurs fronts diplomatiques pour mettre fin au conflit ukrainien. Il a déclaré qu'il rencontrerait bientôt le dirigeant russe et va envoyer une équipe dirigée par le vice-président pour rencontrer le dirigeant ukrainien vendredi. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point sur les dernières nouvelles. Récit Thierry Caouré.
Le président Donald Trump a posé ses conditions pour que les États-Unis continuent de soutenir l'Ukraine tout en lançant une charge diplomatique visant à mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui dure depuis près de 3 ans.
Nous obtenons donc une sécurité sur notre argent. Ils ont des métaux rares, du pétrole et du gaz et beaucoup d'autres choses. Et nous demandons la sécurité de notre argent. Et ils ont accepté. L'Ukraine a accepté.
Vous n'envoyez plus d'aide à l'Ukraine ?
Non, nous le faisons. Mais nous voulons qu'elle soit sécurisée et l'argent le sera.
Les législateurs américains ont approuvé près de 183 milliards de dollars pour le soutien militaire et non militaire à l'Ukraine depuis février 2022, selon un rapport de contrôle remis au Congrès mercredi. Un peu moins de 40 milliards de dollars restent disponibles. Les commentaires de Trump viennent couronner une journée de diplomatie intense marquée par des appels entre Trump et ses homologues russes et ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé avoir eu une longue conversation avec Trump. Lors d'une rencontre mercredi avec le nouveau secrétaire américain au Trésor au sujet d'un éventuel accord économique, Zelensky a insisté sur la principale exigence de l'Ukraine dans son plan de paix, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et son besoin de garanties en matière de sécurité.
Et je demande au président Trump de nous donner ses garanties de sécurité, d'aider l'Ukraine, de nous renforcer. Bien sûr, nous devons parler à l'Europe parce que nous devons avoir une armée encore plus grande. Nous avons un déficit budgétaire aujourd'hui, mais pour avoir une armée encore plus grande, au moins aussi grande qu'elle est aujourd'hui, et pour la nourrir et l'armée, il faut disposer d'une grande ressource. Cet argent doit venir de quelque part. Il s'agit en gros des garanties de sécurité.
Trump a aussi déclaré qu'il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine en Arabie Saoudite dans un avenir assez proche. Il a exprimé l'espoir que la décision de Moscou d'échanger l'enseignant américain Mark Fogel contre un caïd russe de la cybercriminalité ouvrirait la voie à des négociations visant à mettre fin à la guerre. Le Kremlin, parlant de l'échange de prisonniers, a déclaré ceci. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.
Naturellement, de tels accords sont précédés d'un travail de négociation très, très méticuleux. Et bien sûr, il est peu probable que de tels accords puissent devenir un tournant, mais en même temps, petit à petit, il s'agit de certaines étapes pour construire cette confiance mutuelle entre la Russie et les États-Unis, qui est actuellement à son plus bas niveau.
Le vice-président J.D. Vance quitte la France pour l'Allemagne, où il mènera des discussions de haut niveau avec Zelensky vendredi à Munich, dans le cadre de son premier voyage à l'étranger en cette qualité.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Lionel Nanilagahima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.